L'innocent. L'homme qui vient d'entrer paraît être âgé d'une cinquantaine d'années. Son visage, pâle, oblong, est troué de petites vérolles. Ses cheveux sont gris et longs, et sa barbiche rare est rousse. L'homme est de si haute taille qu'en franchissant le seuil, il a dû non seulement baisser la tête, mais encore plier le corps. Il est couvert de quelques loques qui ressemblent à la fois à un caftan et à un podrias knik, c'est-à-dire une robe d'ecclésiastique. De sa main, il tient un long bâton pastoral. En entrant dans la chambre, il frappa de son bâton le plancher avec force et, les sourcils froncés, la bouche démesurément ouverte, il éclata d'un rire étrangement terrible. Un de ses yeux était louche, le blanc de cet œil roulait sans cesse dans l'orbite et ajoutait à son visage, déjà fort laid, une expression plus répugnante encore. « Ah ah, je vous tiens » s'écria-t-il en s'approchant à petits pas de Volodia, qu'il saisit par la tête. Il examina le sommet de la tête de mon frère avec soin. Puis, de son air le plus sérieux, il s'éloigna, alla à la table, souffla sur la toile cirée et fit des signes de croix répétés. « Oh, pitié ! Oh, oh, douleur ! Pauvre ! Ils s'envoleront » dit-il d'une voix entrecoupée de sanglots. Il regardait tendrement Volodia et essuyait de sa manche les larmes qui coulaient sur sa joue. Sa voix était rauque et grossière. Ses mouvements étaient saccadés et inégaux. Ses paroles n'avaient aucun sens, mais l'accent qu'il y mettait était si touchant. Mais son visage jaune, monstrueusement laid, exprimait parfois une tristesse si sincère qu'en l'entendant, on ne pouvait s'empêcher de ressentir une sensation de peur, de compassion et de tristesse. C'était l'innocent, le pèlerin Grisha. D'où venait-il? Qui étaient ses parents? Quelles circonstances l'avaient jeté dans cette vie errante? On ne le savait. Dès l'âge de 15 ans, il était connu comme un pauvre démon, marchant pieds nus, hiver comme été, fréquentant les couvents, distribuant de petites icônes à ceux qui lui plaisaient, et prononçant des paroles mystérieuses que d'aucuns acceptaient comme des prophéties. Personne ne l'avait connu exerçant un autre état. Il venait parfois chez la babouchka, la grand-mère, et certains disaient qu'il était le malheureux fils de parents pauvres et que son âme était très pure. D'autres prétendaient qu'il était un simple moujik et un paresseux. Enfin, le ponctuel Foka, désiré si impatiemment, fit son apparition. Et nous quittâmes la salle d'études. Grisha, toujours sanglotant et sans cesser d'articuler des propos incohérents, nous suivit en frappant de son bâton les degrés de l'escalier. Papa et maman traversèrent le salon, bras dessus, bras dessous. Ils causaient doucement entre eux. Maria Ivanovna se tenait roide dans un fauteuil. D'une voix sévère que le respect contenait, elle donnait des conseils aux petites filles assises près d'elle. Aussitôt que Karl Ivanovitch entra dans le salon, elle leva les yeux sur lui et les détourna très vite. Son visage semblait dire « Je ne vous remarque pas, Karl Ivanovitch ». Dans les yeux des petites filles, nous lûmes qu'elles avaient une communication importante et pressée à nous faire. Mais se lever avec vivacité de leur place et venir à nous eût été contraire aux règles enseignées par Mimi. Il nous fallait d'abord nous approcher et souhaiter le bonjour à Mimi en faisant la révérence. Ce n'était qu'après ce cérémonial qu'on nous permettait d'engager la conversation. Quelle insupportable personne, cette Mimi. Elle trouvait tout inconvenant. Et l'on ne savait comment s'y prendre pour parler devant elle. De plus, elle nous répétait sans cesse « Parlez donc français !» comme s'il l'eût fait exprès, cette recommandation nous venait toujours quand nous voulions parler russe. Pendant le dîner, quand on commençait à goûter quelques plats et qu'on voulait n'être gêné par personne, elle nous harcelait de « Mangez donc avec du pain !» ou bien « Comment tenez-vous votre fourchette » Qu'a-t-elle donc à s'occuper de nous? Qu'elle s'occupe de ses fillettes, nous autres, nous avons Karl Ivanovitch. Aussi, je partageais complètement la haine de celui-ci pour certaines gens. « Demande donc à maman que l'on nous emmène à la chasse, » dit Kajnenka à voix basse en me retenant par la veste, tandis que les grands passaient dans la salle à manger. « C'est entendu, nous tâcherons. » Grisha mangeait à une table séparée. Il ne levait pas les yeux de dessus son assiette. Il poussait parfois des soupirs, faisait d'effrayantes grimaces et se parlait à lui-même. « Pitié, s'envolera la colombe du ciel. Oh, une pierre sur la tombe !» etc. Maman paraissait préoccupée depuis le matin, et la présence, les propos et l'agitation de Grisha augmentaient sa préoccupation. « Ah oui, j'allais oublier de te demander quelque chose, » dit-elle à papa, en lui faisant passer une assiette de soupe. « Oui, quoi ? Ordonne, je te prie, d'enfermer tes terribles chiens. Ils ont failli déchirer le pauvre Grisha quand il est entré dans la cour. » S'ils allaient se jeter sur les enfants, Grisha entendit qu'on parlait de lui. Il se tourna vers notre table, montra les pans déchirés de son vêtement et, sans cesser de mâcher, marmotta « Il voulait que je fusse dévorée. Mais Dieu ne l'a pas permis. C'est un péché de lâcher les chiens sur un homme. Un grand péché. Il ne le frappe pas, Bolchak !» Il nommait ainsi tous les moudjiks sans distinction. Il reprit. « Et pourquoi le battre? Dieu pardonnera. C'est un temps à passer. »« Mais que dit-il donc ?» fit mon père en fixant le démon avec sévérité. « Je n'y comprends rien du tout. »« Moi, je comprends, » répondit ma mère. « Il vient de me raconter qu'un chasseur a lâché exprès ses chiens sur lui. Il dit que ce chasseur voulait le faire mettre en pièces, mais que Dieu ne l'a pas permis. Il te prie de ne pas châtier le chasseur. » « Ah ! Mais pourquoi croit-il donc que je châtierai ce chasseur ?»« Tu sais, » continua-t-il en français, « je n'aime pas beaucoup cet homme, et celui-ci surtout ne me plaît pas. Il doit être... »« Ne me dis pas cela, mon ami, » interrompit ma mère, terrifiée. « Pourquoi cette méfiance ?»« Il me semble que j'ai déjà eu assez d'occasions d'étudier cette engeance. »« Il y en a tant qui viennent chez toi. Ils sont tous les mêmes. » C'est toujours la même et éternelle histoire. Il était visible que maman avait là-dessus une autre opinion et qu'elle ne tenait pas à discuter. « Passe-moi, je te prie, un petit gâteau, » dit-elle. « Sont-ils bons aujourd'hui ?»« Non, cela me fâche, » reprit papa en poursuivant sa pensée. Il prit les gâteaux pour les donner à ma mère, mais les tint à distance, tout entier à sa préoccupation. « Vraiment, cela me fâche quand je vois des gens intelligents influencés par ces supercheries. » Il frappa la table de sa fourchette. « Je te prierai de me passer les gâteaux, » fit maman en allongeant le bras. « Et on fait bien, » continua mon père. « On fait bien de mettre ces sortes de gens en prison. Ils ne sont bons qu'à déranger les nerfs trop faibles de certaines personnes, » conclut-il avec un sourire à l'adresse de maman, dont il avait remarqué la gêne. Il lui tendit enfin l'assiette au gâteau. Je ne te répondrai qu'une chose. Il est difficile de croire qu'un homme qui, malgré ses 60 ans, marche pieds nus hiver comme été, qui porte tous ses vêtements sans jamais les ôter, des chaînes pesant 2 pouds et qui a refusé à plusieurs reprises un asile qui lui eût été nécessaire, il est difficile de croire qu'un tel homme fasse tout cela par paresse. Et pour ce qui est de ses prophéties, ajouta-t-elle avec un sourire, je suis payée pour y croire. Je t'ai déjà raconté, ce me semble, comment Karyutcha, jour par jour, heure après heure, a prédit sa mort à feu mon père. Ah, qu'as-tu fait, dit papa en souriant et appliquant sa main sur sa bouche du côté où était Mimi. Quand mon père faisait ce geste, je dressais l'oreille, m'attendant à quelque chose de risible. « Pourquoi m'as-tu rappelé ses pieds ? Je les ai regardés. Oh, je ne pourrais pas finir de manger. » Le dîner finissait. Loubiotchka et Kajdenka nous adressaient d'incessants clignements d'yeux, s'agitaient sur leurs chaises et manifestaient une vive inquiétude. Ces signes nous disaient clairement « Pourquoi ne parlez-vous pas de la chasse ?» Je poussai Volodia du coude. Il me poussa à son tour et finit par se décider. D'une voix d'abord timide, mais qui s'affermit à mesure, il demanda, puisque nous partions aujourd'hui, que les petites filles suivissent la chasse dans une voiture. Après une courte délibération des grands, la question fut résolue à notre avantage. Et, ce qui nous fut encore plus agréable, maman déclara qu'elle viendrait aussi.